Bien, bien, bien. Bonsoir à vous, mes malicieux malentendants de la contrée asiatique lointaine. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais très bien et je suis présent pour vous offrir mes analyses et prédictions complètes pour la carte de l'UFC 262 qui a lieu ce samedi soir, qui va finalement nous dire qui est le nouveau champion lightweight de l'UFC, qui est celui qui va remplacer Khabib Nurmagomedov, qui a décidé d'abandonner la ceinture puis d'aller faire des choses plus intéressantes que se battre dans une cage. Et puis, je suis là pour vous présenter mes analyses et prédictions complètes pour chacun des combats sur la carte. Il y en a 12 pour l'instant. On va voir, il va y en avoir combien Fight Night, mais c'est une carte qu'on s'entend de perdre Edwards contre Diaz, ça a fait mal. Perdre Hermanson contre Shabazian aussi, ça a fait mal à la main card. Mais ça reste quand même une belle petite carte avec des beaux combats qui devraient être intéressants. Je questionne peut-être un peu les choix qu'ils ont fait pour la main card, là, honnêtement, dans un des cas, surtout. Parce que oui, c'est un combat qui a des names, mais c'est un combat qui en tout cas, rendu là, on en parlera, mais on va commencer notre analyse avec, comme à l'habitude, le combat principal de la soirée, Charles Oliveira face à Michael Chandler. Et puis, on peut dire ce qu'on veut, basically, sur ce combat-là, là, sur le match-up, sur si on est content ou pas que ça ait lieu, si Michael Chandler le méritait ou pas, si Dustin Poirier est dedans ou pas, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, maintenant, on le sait que s'il n'a juste pas pris le combat, il préférait se battre avec McGregor. Mais c'est vraiment un bon fight qui risque d'être intéressant, qui est un incroyable stylistic match-up. Et aussi, Charles Oliveira a un title shot. Puis ça, c'est assez incroyable quand on y pense parce que moi-même, je pense que c'est comme à Mick Dufort puis à mon coach Fred Poirier que toutes les deux, je leur avais dit, ce gars-là ne se battra jamais pour une ceinture. C'est le nouveau Tony Ferguson qui va en gagner 12-13 de ligne puis qui n'aura jamais de title shot. Puis le jour qu'il va arriver pour un title shot, il va arriver de quoi puis il va perdre parce qu'il va avoir trop vieilli. Puis, tu sais, je pensais vraiment que c'était le passing of the torch, le combat Ferguson-Oliveira. Puis, heureusement pour Charles, la situation fait qu'il y a le title shot puis c'est de loin la personne qui le mérite le plus dans la division, peut-être même plus que Dustin Poirier à ce stade-ci, bien que ce point-là est débattable. Maintenant, pour ce qui en est du match-up, écoutez, ici, là, dans l'essence, ça va être un striker versus grappler match-up. Parce que Charles Oliveira est très bon debout. On ne se le cachera pas, c'est ça qui fait qu'il est rendu un fighter élite qui est capable de se battre pour une ceinture dans l'UFC. C'est qu'il a vraiment amélioré son stand-up. Puis c'est un style de stand-up Muay Thai, il lance beaucoup de coudes, beaucoup de genoux, mais très agressif. Puis il essaie d'y aller en volume. Puis ça marche, c'est très bon. Son niveau technique a beaucoup augmenté à travers les années. Pour ce qui en est du match-up avec Chandler, on en reviendra pour ce que j'en pense. Mais son striking s'est vraiment amélioré. Donc, tu sais, c'est pas purement striker versus grappler, mais on peut dire la même chose pour Michael Chandler, qui est un excellent grappler, excessivement explosif et athlétique. Donc, il scramble très bien, a tendance à juste naturellement finir on top pendant les scrambles parce que souvent, il est plus athlétique que son adversaire. Puis il a plus de facilité à exploser puis à finir dans la bonne position dans un scramble. Mais je penserais pas. En fait, pour ce qui est du stand-up, je pense que ça peut être un combat très serré. Mais ce que je pense pas que Charles Oliveira peut matcher, c'est d'un le power de Michael Chandler, qui est un knockout artist debout, qui est un gars qui a une grosse overhand right, qui a beaucoup de très bons punch, puis qui a un bon arsenal pour set-up ces finishing punch-là en général. Puis il le fait très bien. On l'a vu contre Dan Hooker, passer un KO au premier round à Dan Hooker, c'est quelque chose. Parce que Dan Hooker, c'est un très bon striker lui aussi, puis un gars très durable, comme on a vu dans son combat, dans tous ses combats, en fait. T'sais, contre Poirier, contre Barboza, contre tout le monde. Donc, je pense pas qu'Oliveira peut matcher le power. Puis je pense pas qu'il peut matcher la durabilité, le cardio. Je pense pas que Charles Oliveira peut faire à ce stade-ci 5 rounds de striking puis être dans une meilleure condition physique à la fin que Michael Chandler. De un, parce qu'il est beaucoup plus agressif et lance beaucoup plus de volume que Michael Chandler à la base. Puis de deux, parce qu'il est peut-être pas réputé comme étant le combattant qui a le meilleur cardio. Puis oui, ça aussi, c'est quelque chose qui s'est corrigé dans sa game. Mais là, on parle d'un 5 rounds pour un titre ici. Et puis Michael Chandler, des 5 rounds pour des titres, il en a fait là, dans sa carrière. Et puis il en a fait contre Benson Anderson, il en a fait contre Eddie Alvarez. Donc c'est pas son premier rodéo, puis c'est même pas son premier rodéo contre un adversaire qui a déjà été champion de l'UFC. Puis dans le temps que Chandler et Alvarez se sont affrontés, aucun des deux n'avait encore été champion de l'UFC. Donc Eddie Alvarez n'était pas, c'est pas comme mettons Benson Anderson, on peut dire ouais, il était peut-être un peu pas son prime quand il a affronté Michael Chandler, mais c'est pas le cas pour Eddie Alvarez aucune des fois. Puis la première fois, c'est Chandler qui l'a gagné ce combat-là. Donc debout, je pense pas que Charles Oliveira peut matcher le power de Michael Chandler, puis je pense pas qu'il peut matcher ben, c'est plus Oliveira qui va avoir un pace élevé, mais je pense pas qu'il peut garder ce pace-là pendant 5 rounds, chose que Michael Chandler peut faire assez confortablement, selon moi. Ça a été prouvé auparavant. Maintenant, pour ce qui est du combat au sol, ben, autant Michael Chandler est un excellent grappler que Tony Ferguson est un excellent grappler. Puis on a vu ce qui est arrivé au sol. Charles Oliveira au sol, c'est absolument quelque chose d'autre. Puis avant, tu sais, dans le temps, c'était le genre un peu à se retrouver sur son dos puis à attaquer avec beaucoup de soumission. Puis il va encore faire ça si ça arrive. Je pense pas que Chandler va vraiment être volontaire pour essayer de le take down dans ce combat-là. Du moins, tu sais, DC a dit que il pensait que Chandler allait effectuer des take downs. Moi, je pense que je ferais pas ça, là. Honnêtement, avec lui, là, je ferais pas vraiment ça. Mais il est devenu beaucoup plus positionnel. T'sais, son combat contre Tony Ferguson, c'était magnifique parce qu'il a landé ses takedowns, il a gardé ses positions, il a avancé ses positions de façon très technique, puis il les a pas perdus une fois rendus là. Puis c'est des choses qu'on voyait pas de Charles Oliveira, qui a toujours été un genre de submission over position grappler. Puis c'est ça, des fois, qui faisait qu'il se retrouvait dans des situations absolument terribles dans des combats où, justement, il essayait une soumission, puis là, il a perdu, puis il se retrouvait en dessous, puis il se faisait pound out. Des choses comme ça, ça arrivait. Puis on le voyait des fois, quand il essayait 2-3 soumissions en dessous, puis que ça marchait pas, ça, sa confiance descendait, puis il se retrouvait un peu en dessous du gars à rien faire. Puis, tu sais, il s'est fait quand même finir souvent là, dans sa carrière, Charles Oliveira. Puis je pense que dans le cas de la majorité des strikers versus grappler match, parce que ça reste ça dans le fond, si Charles Oliveira a beaucoup de temps au sol, va avoir de très bonnes chances de soumettre Michael Chandler, même si Michael Chandler est un bon grappler. Puis plus que du temps debout, je pense que Michael Chandler va avoir des chances de passer le KO à Charles Oliveira, qui est un très bon striker, mais qui pourra, je pense, pas le matcher dans certains aspects. Donc, c'est la lutte qui va décider ce combat-là, parce que si Oliveira n'est pas capable d'amener le combo au sol, ben, ça va rester debout. Et puis, ben, le lutteur américain qui est excellent dans cette discipline-là, c'est Michael Chandler. Puis, c'est un peu pour cette raison-là que je favorise Michael Chandler dans ce combat-là. Je pense qu'il va probablement gagner ça par knockout ou TKO au troisième round. Puis ne doutez pas du fait que je prends vraiment beaucoup pour Charles Oliveira dans ce combat-là. En tant que gars de joue, c'est sûr que j'espère d'avoir un des meilleurs grapplers qu'on a vu dans l'UFC, gagner une belt puis essayer de la défendre, puis d'avoir une run de champion là, en tant que grappler qui est capable de sortir des grosses soumissions, puis tout, ça serait absolument magnifique. En plus, après toutes les années que ce gars-là a travaillé pour ça, puis là, finalement, de se rendre là un peu inattendu dans des drôles de circonstances, mettons, mais c'est le fun pour lui, puis je suis 100% derrière Charles Oliveira. Mais honnêtement, je pense que le match-up favorise Michael Chandler ici. Donc, Michael Chandler, KO round 3. Co-main event. Oh man, ce combat-là, Tony Ferguson face à Benil Dariush, c'est comme un peu tous les combats de Tony. J'aurais aimé ça les voir là, deux ans et demi. Tu sais, je pense que ça a été vraiment incroyable. Parce que j'ai même pas envie de commencer à analyser leur game. Parce que pour vrai, je pense que probablement Dariush est meilleur debout, même si Tony essaie de travailler sur sa boxe. Puis Tony est weird, puis on dirait que le monde a un peu figure out les choses weird qu'il faisait, puis ça fait que son striking n'est plus vraiment efficace. Et puis au sol, il se retrouve dans une autre situation où Tony peut peut-être essayer de faire des choses au sol dans ce combat-là, mais se retrouve encore contre une excellente black belt en jiu-jitsu brésilien qu'on a tendance à oublier que Benil Dariush est arrivé en MMA en tant que gars de jiu-jitsu qui va soumettre plein de monde. Puis là, finalement, il s'est entraîné à King's MMA assez, fait que ça sera un esthétique striker Muay Thai relentless as fuck, puis genre complètement terrifiant. Puis, tu sais, la grosse lacune de Benil Dariush, je m'ai semblé avoir travaillé un peu alentour de ça dans ses derniers combats. Ça va rester son menton. C'est un gars qui quand il se fait allumer assez sévèrement, merci. Mais je sais même pas si Tony a ça dans lui présentement de l'allumer. Tu sais? Donc, si Tony ne l'allume pas, avec ce qu'il a donné dans ses derniers combats, qui est vraiment pas grand-chose, je suis pas enclin à le pick ici, là, pas en tout. Donc, mon pick, ça va être Benil Dariush par décision. Parce que je pense que autant Dariush est super puissant, c'est un bon finisher au sol. Je pense que Tony est encore trop tough pour son propre bien. Puis c'est pas un gars qu'on va vraiment avoir se faire finir souvent. T'sais, même contre Gaethje, le finish, c'était pas genre, oh mon Dieu, c'est fait plier en deux. C'est juste tout le monde commence à avoir un peu pitié. Puis l'arbitre a mis un terme à ça parce que c'était con de le laisser prendre ce punishment-là. Mais je pense que si tu l'avais laissé, il aurait fini le combat, le Tony Ferguson, dans ce combat-là. Bien que c'est une bonne chose qu'on ne le laisse pas. So, Benil Dariush, décision. Ça nous mène d'un bon petit combat flyweight. Ils vont se battre à bantamweight. Ça, j'ai pas de trouble avec ça. Mais c'est match nil. Rogerio Bontorin. Et puis, j'ai l'impression que le pick intelligent ici, c'est match nil pour comme travailler un peu derrière son jab puis garder le gars qui va être plus petit puis plus stocky at range puis essayer de dealer avec ça puis de jouer une approche all the way in, all the way out là, parce que match nil est aussi un genre de Charles Oliveira sur son dos, si on peut le dire ainsi, un très très bon grappler en dessous, il y a une excellente guillotine, il y a des bons triangles, il y a des bons armbars en dessous, et puis il peut être surprenant de là, puis Rogerio Bontorin adore là, se mettre sur le top de son adversaire, puis faire du dommage là, il s'en allait soumettre le chum Kai Kara France là, dans leur combat, puis en tout cas, on saura tout comment ça a fini ici. Mais j'ai comme l'impression que Bontorin va gagner ici. J'ai comme c'est mon feeling. Puis ça va un peu dans la même veine que toujours avec les combats de match nil. Je le trosse juste pas. Le gars, il est bon, il fait des belles choses, mais il n'est pas vraiment durable. Puis à chaque fois qu'il se retrouve devant quelqu'un que oui, il est plus petit que lui, il est plus stocky que lui, Bontorin va probablement essayer de le soumettre. Mais j'ai l'impression que quand il va essayer de closer la distance pour aller chercher ses takedowns, il a tendance à être assez wild puis essayer de provoquer un échange puis le passer en dessous de quelque chose pour aller chercher son takedown. Puis j'ai l'impression qu'il pourrait taguer Matt Schnell là ou juste comme prendre une bonne position au sol en demi-garde puis faire beaucoup de dommages. Puis Schnell, c'est pas un gars que je m'attends à ce qu'il soit bien durable. Fait que pour cette raison-là, puis parce que Bontorin, tu sais, il a perdu ses deux derniers combats, mais contre Cara France, il était à ça de le finir. C'est un gars qui sous-performe un peu par rapport à ce qu'on s'attend à lui. Puis t'as Matt Schnell qui sur-performe par rapport à ce qu'il est supposé d'être capable d'accomplir. Fait que j'ai comme un peu l'impression que c'est le combat que les choses vont s'égaliser, vont revenir à la normale. Fait que pour cette raison-là, j'ai Bontorin par TKO au round 2. Ensuite, Caitlin Chookagian face à Viviane Araujo. Et puis ça, là, les amis, c'est le combat, je ne suis pas content que ce soit sur la main card. Parce que Caitlin Chookagian va arriver là et puis va nous sortir sa meilleure imitation d'Holly Holm. C'est la version non-athlétique de Holly Holm. Et puis, ben, elle va probablement battre la chum Viviane Araujo, qui est bonne, qui est une bonne combattante de Muay Thai, extrêmement rapide pour la division. Mais c'est normal, elle mesure 5 et 4, puis elle va se battre ici contre la fille de 5 et 9, 5 et 10, qui venait de 135 livres avant, puis qui utilise beaucoup, tu sais, justement, son gros frame pour se permettre de rentrer, puis lander des shots, puis se permettre de coller son adversaire contre la cage, puis de lander des takedowns ici et là. Puis Caitlin Chookagian, Dieu sait que tout ce qu'elle fait, ça finit en split decision extrêmement serré dans le combat qui n'est pas nécessairement le plus entertaining du monde, parce que la fille lance beaucoup de volume. C'est surprenant de voir comment qu'elle lance, mais il n'y a rien que vraiment d'impact, malheureusement. C'est tout, on dirait, un genre de sparring match où elle essaye de toucher son adversaire puis s'assurer de sortir du range pour ne pas être touchable. Puis elle répète cette expérience-là. Puis si ça ne marche pas, ben elle essaye de switch up avec un takedown. Puis je pense qu'Araujo va avoir du succès, mais je pense que plus le combat va avancer, plus la plus grosse et plus physique des deux combattantes va l'emporter sur celle qui... Il va essayer d'être petite puis d'être la plus rapide, mais toujours bouger puis de probablement plus affecter son gas tank ainsi. Puis on sait que si on compare les deux gas tanks, c'est True Kagan qui a la meilleure gas tank des deux à la base. Donc, Caitlyn True Kagan par décision, peut-être partagée, peut-être weird, peut-être pas super entertaining. De là pourquoi, je sais pas pourquoi ils ont mis ce combat-là sur le pay-per-view, mais c'est pas grave parce que le combat juste avant, c'est probablement le deuxième meilleur combat sur la carte, pour être bien, bien, bien honnête. Sinon, pas le meilleur combat sur la carte. Je pense que le débat peut être fait, mais le fait qu'on a le main event, c'est sur 5 rounds pour une belt, ça lui donne un petit peu de shine, de prestige par rapport à ce combat-là. Mais Shane Burgos, Edson Barboza, c'est tout un combat. Puis c'est le combat qui me donne énormément de difficultés à pick sur cette carte-là, parce que il y a deux choses qu'on sait. On sait que Shane Burgos, c'est un train qui va de l'avant puis qui oublie souvent de ne pas défendre les punches avec sa tête. Puis ça fait qu'il est très bon et très compétitif et même en avance dans la majorité de ses combats. Mais quand il affronte quelqu'un qui frappe très, très fort, comme Josh Emmett, comme Calvin Kattar, ben le gars, malheureusement, il paye le prix là, et puis il se fait finir. Basically, c'est ça qui arrive avec Shane Burgos quand il affronte quelqu'un qui frappe très fort. Dans le cas d'Edson Barboza, avec toutes ces années-là, on le sait, une chose, c'est qu'il n'aime pas vraiment la pression, mais il faut que la pression soit bien appliquée. T'sais, est-ce qu'on va avoir droit à quelqu'un qui va mettre de la pression comme Kevin Lee, comme Khabib, comme Justin Gaethje l'a fait, ou on va avoir le droit à quelqu'un qui va mettre la pression, comme Dan Hooker l'a fait, puis on a vu quel a été le résultat dans ce combat-là. Puis ce qui fait que ce combat-là est absolument fascinant, c'est que Shane Burgos va absolument mettre la pression sur Edson Barboza. Mais si j'avais à prendre un guess, je pense que ça serait plus de la pression à la Dan Hooker que de la pression à la Kevin Lee ou à la Khabib ou à la Gaethje. Et Dieu sait qu'Edson Barboza frappe fort. Fait que j'ai l'impression que les deux combattants ont le style pour donner beaucoup de difficultés à leur adversaire. Et puis, ça fait que c'est un combat énormément difficile à pic. Mais honnêtement, je pense que je vais y aller avec le bon vieux Edson Barboza, qui est la chose que je fais rarement dans ces combats-là. J'ai noté que souvent, j'y allais pour le plus jeune, là, pour le prospect, pour genre le passing of the torch un peu. Mais comme je vous dis, j'ai plus l'impression que la pression de Burgos va être comme celle de Dan Hooker que comme celle qu'a pu offrir Justin Gaethje quand il a battu Edson. Donc, pour cette raison-là, je pense que notre ami Shane Burgos va rentrer dans des counters solides du chum Edson Barboza, puis va probablement se faire finir à quelque part au troisième round. Donc, Barboza, TKO round 3. On passe au prelim. Jacare Souza, André Muniz. Dans exactement le genre de combat qu'il faut que tu fasses pour Jacare Souza, parce que André Muniz, ce gars-là, gagne par soumission. That's all. C'est pas compliqué. C'est ça qui arrive. Puis c'est bien parfait pour Jacare, qui est rendu lent, qui est rendu très hésitant debout, qui a juste sa grosse overhand, qui shoot plus de takedown dans ses derniers combats, pas avec tant de succès que ça, mais shoot plus de takedown que, là, mettons, 2 ans, quand c'était devenu le striking Jacare qui fait juste plugger des gros overhand right parce que il se filait un peu après avoir knocké Chris Weidman, puis ça fait que c'est ça. C'était une drôle de passe frustrante pour un des meilleurs grapplers de l'histoire de l'UFC. Et puis, au final, ici, les deux gars risquent de grapple dans ce combat-là. Je pense que si c'est un striking match, Jacare peut le gagner anyway. Et puis, je pense pas que Jacare a assez slow down pour se faire soumettre par quelqu'un qui, même si il est beaucoup plus jeune et beaucoup plus petit et beaucoup moins explosif et musculaire et puissant qu'un Jacare Souza, même un très vieux Jacare Souza. Donc, j'ai Jacare par soumission au premier round. On n'y est pas avec ça. Et ça nous met un combat chez les 145 livres. Lando Vannata qui fait ses débuts dans cette division-là face à Mike Grundy. Et puis, tu sais, Lando Vannata continue un peu de décevoir dans l'UFC. Il gagne des combats ici et là, des gros highlights à sa fiche, mais se retrouve trop souvent dans des genres de draw, des combats beaucoup trop serrés qui perd tout juste. Puis je pense pas que descendre à 145 livres, c'est la solution. Je pense encore moins que descendre à 145 livres contre Mike Grundy est la solution, parce que Mike Grundy, va travailler un style de wrestle boxing ici, qui va essayer d'utiliser ses coups de poing pour set up ses takedowns et puis s'installer sur Lando Vannata et puis lander du dommage, essayer de passer la garde. Puis s'il peut se rendre à une soumission qui est souvent soit un rear naked choke, un side choke, tu sais, quelque chose comme ça, il est très choke-oriented dans sa submission game. Et puis, tu sais, je pense que Mike Grundy, là, basically, a gagné son premier combat dans l'UFC contre Nad Narimani. Puis après ça, a affronté Movsar Evloev. Puis il a vraiment donné une bonne run pour son argent. Donc j'ai l'impression que si tu peux donner une bonne run à Movsar Evloev, déjà Grundy est réputé comme étant un tu sais, des bons prospects venant de l'Europe. J'ai Mike Grundy dans ce combat-là. Par décision, parce que comme Tony Ferguson, le chum Lando Vannata se prouve être très battable, mais excessivement difficile à finir. Donc j'ai Grundy par décision ici dans ce combat-là. Et ça nous mène d'un combat middleweight entre Jordan Wright et Jamie Pickett. Et puis, basically, ici, on a deux gars qui ont beaucoup de lacunes. Puis je pourrais commencer à vous énumérer toutes leurs lacunes et toutes les choses qui ne vont pas si bien que ça. Mais je peux juste aussi vous dire que, dans le fond, Jamie Wright a une approche un peu plus patiente au MMA. Il va essayer d'être at range puis de sniper, tu sais, de lander la perfect shot. Puis oui, il travaille en combinaison, mais c'est jamais plus qu'un 1-2 ou un crochet, tu sais, ou quelque chose comme ça. Puis j'ai l'impression que ça ira pas super bien contre Jamie Pickett, parce que Jordan Wright, à chaque fois que je l'ai vu affronter un adversaire, je veux pas dire un adversaire crédible, là, c'est méchant, parce qu'Ike Villanueva est pas si mauvais que ça. C'était-tu Ike Villanueva ou c'était de quoi? Non, c'était Ike Villanueva, définitivement. Mais bref, en tout cas, à chaque fois que je l'ai vu affronter un adversaire assez solide, qui peut être considéré comme UFC level, il s'est fait finir, parce que il est trop patient, puis il attend, puis ça fait que c'est pas le gars le plus durable, puis il finit par manger un très bon punch ou un flurry de punch, puis il se fait finir. Puis Jamie Pickett, comme j'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de lacunes, il y a bien des choses à faire avec Jamie Pickett, mais comme on a vu dans son Win No Contender Series, le gars n'aura pas peur de spammer des combinaisons de 33 hooks consécutifs jusqu'à temps que tu tombes. Puis quelqu'un qui va arriver avec un style tellement in your face puis agressif comme ça, je sais juste pas si Jordan Wright va avoir le temps de se settle dans sa game, puis de garder son range pour s'assied de sniper et tout. Fait que j'ai Jamie Pickett par first round TKO. Ensuite, Andrea Lee, Antonina Shevchenko, et puis c'est fou comment ils donneront aucun step down à Andrea Lee, qui est sur une série de défaites assez importantes, là, 3 ou 4. J'essaie de pull up son topology là, vite vite ici juste pour confirmer, mais c'est tout contre de très bons adversaires. 3 défaites consécutives, c'est Joanne Calderwood, split decision, Lauren Murphy, une split decision, puis Roxanne Modafferi dans une décision partagée. Puis elle reçoit Antonina après ces 3 défaites-là, puis j'ai l'impression que les deux sont un peu semblables, genre réputés comme étant des strikers, mais ont vraiment pas peur d'amener le combo au sol, même le font plus souvent qu'à leur tour, probablement. Et puis, l'affaire, c'est qu'il y en a une qui est en confiance, puis que sa confiance est inébranlable, même si elle perd un combat sur deux, puis ça, c'est Antonina Shevchenko. Et puis, je sais pas où la confiance d'Andrea Lee ici, qui échappe split decision après split decision, puis qui fait bien dans tous ses combats, mais il n'en fait juste pas assez pour aller chercher cette victoire-là. Donc, c'est un peu un pic de trajectoire ici, mais j'ai Antonina par décision. Ça nous mène dans le combat entre Gina Mazzani, Priscilla Cachoeira. Gina Mazzani va être plus grosse, va la prendre, va l'amener au sol, puis va la brutaliser. Je l'ai par TKO. Au round 3, Kevin Aguilar contre Tucker Lutz. Kevin Aguilar, je comprends pas ce qui est arrivé avec ce gars-là. Solide combattant, là, honnêtement, qui était dans LFA, qui s'est battu pour plusieurs promotions, puis qui a été champion de plusieurs promotions. Là, il arrive dans l'UFC, puis il fait quand même bien, bat Rick Glenn, bat Enrique Barzola, puis c'est des combats par décision, c'est serré, parce qu'Aguilar, c'est pas le gars qui lance le plus, puis il y a un style de reculon qui va essayer de te draw in dans ses beaux counters, mais qui essaie tout le temps de chercher le counter parfait, fait qu'il genre, va hésiter de lancer s'il pense pas que c'est la shot parfaite, puis ça fait qu'il lance pas beaucoup, puis ça fait que c'est faisable de travailler alentour de lui, puis les gens ont semblé avoir figure out ça, puis il y a perdu contre Danny Gay, il y a perdu contre Zubera Togukov, par TKO au premier round, ce qui était quand même, tu sais, contre Danny Gay, tu dis, OK, perdu contre Danny Gay, tu sais, c'est correct, le gars est excellent. Contre Tugukov par first round TKO, tu es genre, c'est un bon adversaire, mais se commencer à se faire finir comme ça, c'est pas caractéristique. Puis là, son dernier combat, je perds une split decision complètement non inspirée contre Charles Rosa. Donc, honnêtement, j'ai Tucker là, tu sais, qui est un lutteur, puis qui va juste probablement essayer d'en faire le plus possible avant que son adversaire fasse quelque chose. Je sais pas si ça a de l'allure ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai pas confiance en Aguilar. Puis c'est pas un gars qui travaille beaucoup à la base. Et puis là, va se retrouver dans une situation où il y a un adversaire qui va travailler plus que lui. Puis c'est pour ça que j'ai le chum Tucker Loss par décision. Puis avant que ma caméra meure, je sais pas si vous le voyez dans l'écran, je suis pas sûr que vous le voyez, ma caméra est en train de crever. Bref, Christos Giagos, Sean Soriano. Soriano, il est de retour dans l'UFC, je suis bien content pour lui, mais c'est un 145 livres qui a tendance à se faire out grapple puis qui va affronter un gros grappler de 155 livres. Donc je m'attends pas à ce qu'il gagne ce combat-là. Christos Giagos par décision, et ça complète mes analyses et prédictions pour l'UFC 62 avant que tout crève. Je vous remercie d'avoir écouté. Laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire, faites-moi part de vos prédictions. Abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter.